Pour bien avancer, il faut savoir regarder dans le rétroviseur. Alors lancez le dégivrage des miroirs et regardez l'avant pour mieux comprendre l'après. Bienvenue dans CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, c'était mieux après, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, un programme chargé avec des chroniqueurs chargés aussi, hein, on n'est pas loin du dopage. Mais il faut au moins ça, alors voici le sommaire de la première partie de CMA. Alors, elle est enfin de retour, et ce n'est pas une blague. Bonsoir Manu.
Bonsoir à tous.
De quoi nous parles-tu ce soir ?
Aujourd'hui, mon introduction c'est « Monsieur et Madame Scrooge dans mon sac ont une fille, comment l'appelle-t-il ? »
Alors, Scrooge dans mon sac...
Rapide.
Quelqu'un là ?
Lucas.
Lucas Scrooge ? C'était pas mal.
Non, en fait c'était Jessica, parce que Jessica Scrooge dans mon sac.
Ouais. Pote dans mon sac aussi, oui, ça aussi. Marche aussi. Effectivement.
Donc pas de thématique aujourd'hui, c'est la blague.
Ouais, super. La dernière fois qu'il est venu, on a parlé du soleil. Cette fois c'est bien différent, car on va parler du... bonsoir Jérémy, de quoi parle-t-on ?
Du soleil.
Oh,
comment ça ?
C'est que t'as pas écouté bien la dernière émission, Bruno.
D'accord, ok. Allez, quand il embrasse un sujet, il met toujours la langue. Bonsoir Florian. Une petite mise en bouche de ton sujet ?
Eh bien écoutez, ce soir on va percer ensemble le mystère des langues et revenir sur les origines de l'ancien slavon, du vandale, du frison, du vieux gallois, du néo-phrygien, du sanskrit ou bien encore du berrichon.
Bon dieu ! Avec tout ça, je pense qu'un petit café ne sera pas superflu, mais attention, pas dans une tasse classique. Bonsoir Sandra, de quoi nous parleras-tu ?
Bonsoir, donc je vais vous parler de cet objet du quotidien qu'on utilise 36 fois par jour pour boire notre breuvage préféré.
Oh, oh, bon, ok. Gros programme donc, surtout qu'en deuxième partie, on enfilera un pantalon en jouant du ukulélé. Et de là à croire qu'on est dans la matrice, eh bien on en débattra. Mais pour l'instant, place à la première partie de CMA. Le rire est le propre de l'homme, mais l'humour, celui de Manu. Blague à part, voici une chronique forcément drôle avec Manu. Oh. Ok,
jingle,
voilà. Oh le jingle, ça commence bien.
C'est à peu près de ce niveau-là. Alors, d'accord. Bonsoir à tous, aujourd'hui je m'appelle Michel Mabel et je suis le premier être à avoir eu l'idée de rédiger une blague.
Ah.
Ouais, je voulais m'appeler Jessica en référence à cette blague très drôle précédemment citée en entame de cette chronique, mais je préfère m'appeler Michel. D'abord parce que c'est le nom d'un personnage de théâtre célèbre de notre auteur favori, en la personne Bruno, ici présent.
Ah, c'est vrai.
Ouais. Ensuite, en hommage à Coluche, qui, comme chacun sait, portait ce prénom. Alors, je m'appelle donc Michel et je suis le premier homme à avoir écrit une blague. J'ai vécu il y a près de 4000 ans en Mésopotamie, où il y avait plein de potes à moi. Je suis né dans la ville de Nippur, ni contre, au centre de l'Irak actuel, dans une vallée complètement asséchée après avoir vu son fleuve se détourner. Je suis un mâle, ma créatrice ne m'a pas fait homme pour mon humour, non, mais parce que ce sont surtout les hommes qui sont scribes à cette époque-là. Je parle acadien, mais je ne fais pas comme le chantait Fugain que chanter ou danser sur le violon. D'ailleurs, celui-ci n'existe pas à cette époque-là. J'ai grandi au milieu de l'élite et éduqué, ce qui me donne accès aux privilèges de la scolarité. Arrivé à l'âge adulte, je suis devenu professeur et j'apprends aux futurs scribes à écrire la comptabilité pour la gestion du temple. Pas très très rigolo. Travail très fastidieux et peu intéressant, j'apprends aussi à mes élèves à parler sumérien, langue disparue depuis fort fort lointain, que j'enseigne comme on enseigne aujourd'hui le latin. Alors, pour les détendre, je leur propose régulièrement d'exercer leur prose sur leur tablette d'argile, en leur imposant l'utilisation de l'alphabet cunéiforme. La grammaire étant très simple et dépourvue de ponctuation, le sumérien permet la rédaction de morales simples et largement compréhensibles de tous. Les blagues et l'humour étaient alors désignés comme un art de l'insulte condensé en phrases simplifiées. Je n'ai rien inventé, moi, Michel, car cet art existait bien, bien longtemps avant moi, bien avant ma naissance, mais c'est moi qui en serais gratifiée, et oui, pour l'avoir inscrite à tout jamais sur une tablette. Et mon Dieu, que j'étais drôle. Petit exemple à mettre à mon crédit, quand le lion est entré dans la bergerie, le chien a mis sa plus belle laisse. Petit exemple à mettre à mon crédit, certes, mais pas au crédit de l'humour, évidemment. Voilà, alors ça signifie en gros, j'étais un chien de garde, mais maintenant que le lion est là, je redeviens un animal domestique. Pas plus drôle, à mon avis. Mais oui, c'était l'humour de l'époque. Alors bon, d'accord, l'humour se perd dans la traduction, mais la mécanique de la blague est admirablement intemporelle. Décryptons cela. Une version moderne pourrait parler, par exemple, d'un maître nageur sauveteur qui choisirait de prendre sa pause alors même qu'un baigneur se noie et qu'un aileron de requin vient d'apparaître à la surface de l'eau. Ce serait incongru, pour le moins. Alors cet humour s'appuie sur ce que les spécialistes appellent la théorie de l'incongruité. C'est celle qu'emploie un humoriste quand il prépare votre cerveau à prendre à droite, puis qu'il vous emmène à gauche. Exemple, vous êtes prêts ? Mmh. Un prêtre, un rabbin et un...
Voilà.
Canard entre dans un bar. Un prêtre, un rabbin et un...
Canard.
Canard entre dans un bar. À ce moment très précis, il se produit... Vous avez compris ou pas ma blague ?
Voilà.
Oui, à ce moment très précis, il se produit dans notre cerveau une petite décharge de dopamine pour nous récompenser d'avoir trouvé une erreur dans nos suppositions. Voilà, c'est ça qui est très très drôle.
C'est perturbé quand une phrase ne finit pas comme tu l'avais patate.
D'accord, mais là, l'histoire, il n'y a rien d'autre après.
Bah non.
Ah d'accord.
Enfin, là, moi, je ne suis pas humoriste en même temps.
Je confirme, ouais.
Voilà, moi, je vous raconte l'histoire de la blague,
d'accord,
en fait.
D'accord, ok, ok.
Donc, ce phénomène se reproduit ainsi depuis la nuit des temps. C'est donc le mécanisme et l'effet produit dans notre cerveau qui est intemporel. Voilà. Mmh. Et c'est grâce à Michel, tout ça. Alors, tout ça pour vous dire que l'humour est dans nos gènes. Et quand il y a du gène, il y a du plaisir.
Ah, celle-là, elle est bien.
Hein, tu vois. C'est normal, c'est toi qui l'as écrite. Ça expliquerait aussi l'existence universelle du rire et de l'humour dans toutes les civilisations. En résumé, s'il est décontextualisé, l'humour n'est rien. Ce serait comme vous raconter aujourd'hui la blague de Martine et les lasagnes alors qu'elle caresse son cheval. Ça fait plus rire personne, c'est démodé. Voilà, référent. Mm-hmm. Ouais, vous l'avez aussi ou pas?
Ah non.
Alors, les plus jeunes ne l'auront pas.
J'ai rien compris.
Alors, je recommence, la blague de Martine et des lasagnes alors qu'elle caresse son cheval.
C'est une contrepétrie ?
Mais non, c'est pas une contrepétrie, c'est l'histoire de Findus à la viande de cheval.
Ah oui.
Oh punaise.
Voilà, mais tu vois.
Ah ouais, non, mais là c'est référence.
C'est décontextualisé.
Si c'est décontextualisé, c'est plus drôle. À l'époque, ça faisait beaucoup rire.
Ok.
Voilà. Alors c'est QFD, se marrer, se bidonner, l'humour, c'est vraiment pas mieux après.
C'est excellent, merci Manu. Allez, quand on lui a dit qu'il était impossible de n'avoir que des énergies renouvelables, il n'a pas tombé dans le panneau. C'est Chargé à bloc qui ajoute une nouvelle chronique à son compteur. Voici le sujet de Jérémy. Bisous à Sonia qui nous écoute, qui adore sans doute ce jingle.
Elle aurait chanté.
Il est bien contextualisé, ce jingle.
Ah, il est contextualisé.
Il est pas mal.
Il n'est pas drôle.
Non.
Mais il est contextualisé. On ne peut pas tout avoir. Je suis désolé. On va le voir d'ailleurs avec l'énergie solaire. Et donc l'énergie solaire, on en parle beaucoup en ce moment. Et donc je voulais revenir à la base de ce que c'était et pourquoi on en fait tout un foin. Donc une fois n'est pas coutume, je vais vous citer Wikipédia.
Puisque... Ah non, si tu prends les docs de Florian, ça
oui,
va plus.
Mais ça va durer moins de 5 minutes.
Ah oui, d'accord, alors c'est pas Florian.
Alors on est sauvé.
Alors, l'énergie solaire, si on lit Wikipédia, est la fraction de l'énergie électromagnétique provenant du Soleil, traversant l'atmosphère qui en absorbe une partie et parvenant à la surface de la Terre. Mmh. Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau, du vent et de la photosynthèse réalisée par le règne végétal dont dépend le règne animal via les chaînes alimentaires.
Et du coup de soleil.
Et quand je suis tombé là-dessus, finalement, je me suis dit que pour une encyclopédie participative et populaire, on devenait plutôt pas mal. C'est concis, on a fait le tour du sujet, et on se rend compte que l'énergie solaire, finalement, c'est celle qui est à l'origine de toutes les autres, et c'est pour ça que c'est intéressant.
D'accord.
Elle est notamment à l'origine du... Monsieur Joss, au fond de la classe, vous vous souvenez de la dernière émission ?
Le pétrole.
Exactement, qui est...
Oh putain, j'ai eu chaud.
Ni plus ni moins que de la photosynthèse fossilisée, et donc à l'origine de l'énergie solaire. Alors, première nouvelle, l'énergie solaire, on ne l'a pas inventée, hein, puisque vous l'avez compris, c'est elle qui façonne la vie à la surface de notre planète depuis ses origines. Ça dure depuis 5 milliards d'années, ça va durer pendant encore 5 milliards d'années, à une vache près.
Hein. Ah bon, ça va.
Donc, je pense ne pas me tromper en disant que c'est également l'énergie la plus stable et disponible à la surface de notre planète.
Sauf quand il y a des nuages.
Alors, sauf quand il y a des nuages, et pour aller jusqu'au bout
la
du
nuit.
Sujet, sauf quand il fait nuit. Voilà, c'est ça. Effectivement.
C'est quand même plus de la moitié du temps, hein, quand même.
Ah, oui, mais il existe des panneaux solaires pour Lune.
Alors j'ai entendu parler de ça, ouais. J'ai pas creusé ce sujet-là en particulier, d'accord. Mais je pense que ça va pas produire énormément.
Est-ce que ce serait pas plutôt des panneaux lunaires parce que...
Oui, tout voilà. À fait, aussi. Voilà, quoi que non, c'est le soleil qui reflète sur la Lune, donc ça reste solaire.
C'est toujours à l'origine de tout. Voilà, effectivement. Il y a une seule énergie sur Terre qui n'est pas à l'origine du soleil, laquelle ?
Ah, je sais pas.
L'eau. C'est l'énergie nucléaire,
ah.
Qui est à l'origine de roches radioactives qui. ont été prises.
Mais il y a quand même des réactions nucléaires dans le Soleil, non?
Alors, si on va aller jusqu'au bout des choses, ces éléments-là ont été produits dans des étoiles aussi. Hein, mais bref, sur Terre en tout cas, le vent est produit par le Soleil, qui, justement, en chauffant l'atmosphère, va créer des mouvements de convection, etc. Donc, on en parle aujourd'hui parce que c'est une énergie qui peut remplacer donc, les énergies fossiles, puisqu'elle est disponible partout et de manière abondante. Et on en parle aussi beaucoup aujourd'hui, puisque on arrive à faire de l'électricité avec. Parce que ce qui est intéressant avec ces énergies, c'est de l'utiliser de la manière la plus pratique pour nos usages. Et aujourd'hui, on a énormément besoin d'électricité. Donc le solaire, on l'a utilisé depuis très très longtemps, mais ce n'est que récemment qu'on arrive à faire de l'électricité avec, depuis 1839 pour être précis, avec Antoine Becquerel qui a découvert l'effet photovoltaïque qui permet donc de créer à partir du soleil de l'électricité. On n'a pas bien compris ce qui se passait jusqu'en 1922 avec Einstein qui a expliqué l'effet photovoltaïque bien avant sa célèbre équation E égale mc2.
Donc, ah oui, tu veux dire qu'on a inventé un truc sans savoir pourquoi.
Ah mais comme beaucoup de fois,
d'accord.
Ça s'appelle fait de découvrir par hasard.
Oui, mais même quand on découvre par hasard, on comprend pourquoi ça marche. Mais là, ils ne comprenaient pas, ils ont développé ça quand même sans savoir.
Pas du tout, effectivement. On savait que c'était des matériaux particuliers qu'il fallait mettre ensemble, mais techniquement, au niveau moléculaire, au niveau atomique, on a su expliquer ça uniquement avec l'émergence de la physique quantique et des premières découvertes d'Einstein. Mais c'était vraiment au tout début de sa carrière et bien avant qu'il parle de E égale mc2, etc.
D'accord.
Donc l'énergie solaire, le rendement d'un panneau solaire, d'après vous ?
Bah, c'est pas beaucoup, à mon avis c'est moins de 30%.
C'est pas des masses, Aujourd'hui le mieux qu'on arrive à faire c'est 20%, donc ça veut dire que le reste, ça chauffe finalement le panneau solaire comme une vulgaire ardoise qu'on aurait laissée en plein soleil.
On peut faire passer de l'eau pour faire chauffer aussi.
On peut faire passer de l'eau, et ça m'amène au sujet suivant, la meilleure chose qu'on puisse faire avec du soleil, finalement, c'est de chauffer des choses, comme de l'eau par exemple, et donc même si c'est bien de faire de l'électricité avec, aujourd'hui le plus intéressant pour utiliser le soleil, c'est quand même de chauffer de l'eau, de chauffer des bâtiments avec des systèmes plus ou moins complexes, hein, comme des panneaux solaires thermiques ou plus simplement des vitres. Hein, tout simplement, mettre une vitre face au soleil plein sud, ça permet de chauffer.
Ils font aussi chauffer avec des fours ou avec plein de miroirs, ils font bouillir de l'eau.
Absolument.
Et comme pour les centrales nucléaires, ça fait tourner des...
C'est ça.
Donc là, c'est pas ce qu'il a inventé, c'est une autre solution.
Alors là, non, c'est du solaire thermique, tout ce qui est le plus classique, mais on peut effectivement faire des centrales qui, elles, vont alimenter des turbines et produire de l'électricité à beaucoup plus grande échelle. Et on a même des centrales solaires qui fonctionnent la nuit, grâce à des stockages justement de matériaux qui restent chauds pendant la nuit et qui peuvent continuer à produire de l'électricité.
Elles sont où ces centrales?
Dans les déserts. Surtout dans les déserts. Il y en a beaucoup aux États-Unis, dans les zones qui ont beaucoup de soleil. Et elles n'utilisent pas de panneaux photovoltaïques, mais tout simplement des miroirs qui vont concentrer le soleil à l'endroit où on va produire justement la chaleur et faire tourner les turbines. Donc faire de l'électricité, c'est quand même intéressant pour nos usages, mais la voiture électrique, si on veut utiliser uniquement les panneaux qu'on aurait sur notre maison, on fera 10 à 20 km par jour grand maximum, et encore quand il fait beau. Donc c'est pas encore la solution miracle. Donc le soleil, pour conclure, c'était mieux après, parce que c'est quand même sympa de faire de l'électricité avec, mais il y a encore du chemin avant qu'on puisse se contenter du soleil qui brille sur notre maison chaque journée.
Ok, affaire à suivre. Merci Jérémy. Dans un instant, on délira les langues sans se les brûler dans l'eau chaude de notre mug. Mais avant, place au Graal, le podcast qui répond aux questions que vous nous posez sur le compte Question Graal d'Instagram. Ce soir, on se demande d'où vient l'expression « la douceur angevine ».
D'où vient l'expression « la douceur angevine » ?
C'est vrai que c'est une expression qu'on entend souvent. Je vais te répondre avec douceur. Putain de bordel de merde, font chier avec leurs questions. Hein ? Oui, avec douceur. C'est vrai que dans le Maine-et-Loire, il y a une douceur particulière du climat, sans doute due au fait que le département est traversé par la Loire, la Sarthe, la Mayenne et la Maine. Autant de barrières naturelles aux écarts de température. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit de la neige par ici. Et pour les plantes, c'est excellent. Près de 70% des 723 000 hectares du département sont des plantations horticoles. Bref, tout est là pour représenter une douceur de vivre. Quant au terme « douceur angevine », il remonterait au XVIe siècle où Jean-Charles Dubella écrivait au sujet de la région « et plus que l'air marin, la douceur angevine ». Voilà, tu es doux, tu es d'Angers.
C'était le Graal à retrouver en vidéo sur la page Question Graal d'Instagram et Facebook. Alors quand on a essayé de nous expliquer sa chronique, on lui a donné notre langue au chat, en espérant qu'il ne fasse pas trop le Jacques, car finalement, c'est un sujet sérieux. Voici la chronique de Florian.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment.
Ça parle de langue ? Oui, c'est un spécial Soso ce soir.
Oui,
mais
bah,
elle n'est pas là, c'est dommage. Hein.
Bah oui,
elle aurait chanté, elle aurait chanté. Yves Dutheil.
Oui.
Oui,
très
voilà.
Bien. Merci.
Voilà.
Alors,
merci
Bruno.
Est-ce que vous connaissez le point commun entre la langue basque et le finnois ?
Alors déjà, je ne sais pas ce que c'est que le finnois.
La bouche.
Donc le finnois, c'est la langue qui est parlée en Finlande. Ils ne parlent pas le finlandais, ils parlent le finnois.
Ah, d'accord. Ouais. Et donc il y a un rapport entre les basques et les finlandais.
Il y a un
donc,
point commun, effectivement.
D'accord. Mmh. Ouais. Quel serait-il donc ?
Peut-être un accent, non ? Ou une,
pas du tout.
Une lettre ? Une lettre qui est commune ?
Non, non le caractère,
plus,
peut-être.
Une lettre, qu'ils en ont plus d'une qui est commune.
Oui, non, mais il y a tiens, un tilde ou un machin spécifique.
Non, 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 non. En fait, ce sont des langues qui n'ont pas la même origine que nos langues européennes.
Ah.
D'accord.
Voilà. Et oui, parce que le finnois, en fait, c'est comme le hongrois ou l'estonien. Il appartient au groupe des langues finno-ougriennes. Et le basque, lui, est encore plus ancien que ça. Et l'origine est incertaine. En tout cas, c'est un peu flou. On ne sait pas d'où vient vraiment le basque.
Ouais, voilà. Mais ça, c'était une question qu'on se posait, qu'on se pose depuis très très longtemps. D'où vient le basque
oui, c'est
vraiment.
Vrai.
Oui, c'est ben, une vraie question.
Voilà. Alors, je ne vais pas en parler, d'ailleurs. Parce
non.
que je vais parler plutôt de nos langues européennes, en fait, qui ont... qui aurait une langue commune d'origine. En fait, c'est les savants du XVIe siècle qui ont constaté que la plupart des langues européennes, alors qu'elles soient vivantes à l'époque ou qu'elles soient mortes, déjà, t'en as parlé d'ailleurs
oui.
Manu tout à l'heure, des langues mortes déjà il y a bien longtemps, ces langues européennes avaient des similitudes dans le vocabulaire et dans leur fonctionnement, en tout cas dans leur structure. Donc ils se sont demandé pourquoi, donc ils ont commencé à creuser. Et ils ont inventorié les ressemblances et les divergences entre toutes les langues du continent, mais pas que celles d'Europe. Puisque un savant du XVIIIe siècle, William Jones, lui, il identifie d'autres similitudes avec les langues perses et indiennes, notamment le sanskrit, et il amorce l'idée d'une langue commune, originelle, qu'on appellera bientôt l'indo-européen commun. Et donc, en fait, nos langues, la plupart des langues européennes, des langues indiennes, des langues perses, ont une langue mais commune qui est l'indo-européen commun.
D'accord.
Et d'ailleurs, il fait ce constat en parlant du sanskrit. Il dit que la langue sanskrite, quelle que soit son antiquité, est d'une structure admirable, plus parfaite que la grecque, plus ample que la latine, et plus exquisément raffinée qu'aucune des deux, mais ayant envers chacune d'elles une affinité plus forte, tant dans les racines des verbes que dans les formes de la grammaire, qu'il n'en pourrait avoir résulté par accident.
Mm-hmm. Il n'était pas indien par hasard.
Non, il n'était pas indien, il était anglais, je pense. Mais voilà, il se dit que c'est quand même bizarre ce truc-là. En fait, les langues se ressemblent. Donc il se dit, bah voilà, c'est commun. Et donc, alors, tout ça prend de l'ampleur au cours du 19e siècle et au 20e siècle. Et les chercheurs créent une véritable filiation, en fait, entre les langues. Comme on peut faire aujourd'hui les filiations entre les espèces animales, les espèces végétales. Enfin, toute l'histoire de
un arbre généalogique
de l'évolution, langues, voilà, de l'évolution. Mmh. Alors en ce moment, on parle du virus Covid là.
Mmh.
Bah c'est pareil, lui aussi, il a des filiations, il a à chaque fois, il a des liens en fait. On arrive à remonter au virus d'origine en fait.
D'accord.
Et il mute. Et donc c'est un peu pareil pour les langues en fait.
Elles ont muté.
Elles se sont transformées, voilà.
D'accord.
Et donc les chercheurs essaient de comprendre comment la langue d'origine en fait a pu se transformer au fil des millénaires. Puisque ça remonte à plusieurs millénaires maintenant. Donc c'est une véritable tâche de titan, voire une quête sans fin à en perdre son latin, puisque les chercheurs s'appuient sur des théories, des lois, enfin c'est vraiment une science, hein, donc on imagine des choses, on donne des théories, donc il y a plein de lois phonétiques, en fait, qui expliquent pourquoi un E d'origine ou de telle langue, finalement, est passé dans une autre langue sous forme d'un A, d'un I, d'un O, enfin peu importe, qu'un P, ça devient un B dans une autre langue, enfin voilà. Et donc, ils expliquent, voilà, à chaque fois, les évolutions successives de cette langue au cours des millénaires.
Mais disons qu'à l'époque, ce n'était pas très écrit, c'était plus parlé. Donc,
non.
Du coup, c'est ceux qui entendent, ils entendent mal, donc ils peuvent répéter mal, etc.
Alors, c'est une des explications, effectivement, de l'évolution des langues. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on retranscrit ce qu'on a pu entendre.
Il y a des jeunes qui les parlent et tout.
Avec...
en plus, ouais.
Alors, après, c'est l'évolution plus courte, mais l'évolution du vocabulaire. Mais sur l'évolution de la structure, en fait, voilà, on répète finalement ce qu'on a entendu, et forcément, c'est avec nos propres représentations et ce qu'on connaît déjà, donc forcément, on modifie d'une certaine façon la langue, et donc c'est comme ça que ça évolue. Donc, l'indo-européen remonterait quand même, donc on a identifié un petit peu qui pouvait parler cette langue, cette supposée langue, hein, parce qu'on ne sait pas du tout. C'est vraiment des suppositions. Donc ça remonterait au 4e millénaire avant Jésus-Christ.
Quand même.
Donc 4000 ans, moins 4000 ans.
Ah, mais c'est à l'époque de mon sumérien, là.
Et bah, presque.
Ouais, ça vient. Oui.
Donc dans la culture de Gvalinsk, donc c'est sur la moyenne Volga, donc Europe centrale par là.
Okay.
Et où finalement c'était un mélange entre des chasseurs-cueilleurs de l'Est et des chasseurs-cueilleurs du Caucase. Tout ça a fait un petit mélange en fait, et tout viendrait en tout cas de là.
Mais avant ils faisaient quoi?
Alors ça c'est toute l'histoire.
Ouais, c'est ça.
Ça c'est toute l'histoire de toute façon du langage, hein, depuis les Australopithèques et c'est depuis les singes.
Mais une langue structurée qui se répète, enfin plus la langue, ce serait ça.
Alors après c'est toujours cette quête finalement de, mais c'est comme la paléontologie, c'est-à-dire on recherche toujours un ancêtre commun. Voilà, et donc là c'est le même principe en fait, on recherche cette langue donc il reconstitue en fait des mots sur des radicaux en fait de verbes, en se disant que ça c'est un radical commun à plein de langues différentes.
Mais disons qu'il y a 5000 ans là, ils n'avaient pas à savoir que c'était Yel à la place de elle.
c'est sûr mais je pense qu'il y a des millénaires la langue était beaucoup plus subtile. Complexe, bien sûr, complexe et subtil que nos langues actuelles, qui finalement de siècle en siècle se simplifie.
S'appauvrit, on va dire aussi.
S'appauvrit d'une certaine façon, mais se simplifie et on perd, à mon avis, une certaine subtilité de la langue et les nuances qui, à mon avis, il y a bien longtemps, on avait, sans s'en rendre compte, bien sûr, mais voilà. Donc aujourd'hui, juste pour finir, l'indo-européen regrouperait toutes les langues, en fait, qui sont donc l'albanais, qui serait une branche à elle seule, l'albanais, l'arménien, toutes les langues balto-slaves, donc tout ce qui est russe, les langues slaves, bien sûr, toutes les langues celtiques, alors aujourd'hui il nous reste le breton principalement,
d'accord,
les langues germaniques, donc l'allemand, l'anglais, toutes les langues saxonnes, les langues hellénistiques, donc le grec, et autres, les langues indo-iraniennes, donc j'ai parlé, donc le sanskrit même s'il est mort, mais en tout cas les langues indiennes aujourd'hui parlées en Inde. Et puis en Iran, par exemple, enfin dans toute cette région mésopotamienne. Là. Et puis les langues romanes ou italiques, donc français, espagnol, italien, issues du latin.
D'accord.
Ok.
Et donc, ils étaient deux à parler au départ. Et
c'est
voilà
ça.
Ce que ça a donné.
C'est ça.
Tain, ils n'auraient pas pu s'harmoniser quand même.
C'est bon pour toi, Florian? Oui. Bah écoute, très intéressant, merci. Allez, pour finir cette première partie, elle a fait infuser son sujet pendant 15 jours. Un mocha on tasse, voici la chronique de Sandra.
Je suis une tasse, je suis une théière, je suis une cuillère, je suis un bol,
On a du très très haut niveau des jingles aujourd'hui. Il faut le reconnaître.
C'est qui chante ça?
C'est une chanson pour enfants, je suis une tasse.
Voilà.
Voilà.
Et donc t'as tapé sur ton moteur de recherche je suis une tasse.
Je suis une tasse et je suis tombé là-dessus, voilà.
Merveilleux.
Il ne faut pas faire ça pour toutes les chroniques.
Chers auditeurs, cette chronique a bien failli ne pas voir le jour. En effet, j'étais devant mon mug de café à cogiter effectivement une journée entière, peut-être pas 15 jours quand même, mais bon, sur un sujet pour briller dans les conversations au bureau ou entre amis. Et il fallait bien se rendre à l'évidence, j'étais en train de boire la tasse. Quand soudain, un coup de bol, mon sujet était entre mes mains.
Joli.
Bah oui, une question m'a brûlé les lèvres. Le mug, ça vient d'où? Cet objet du quotidien qu'on utilise 36 fois par jour pour boire notre breuvage préféré, café, thé, chocolat. Ce mug qu'on aime collectionner, comme les bolophiles ou tassophiles.
Ça existe vraiment.
Ah, d'accord.
C'est exactement ça. Qui collectionne souvent des tasses à café publicitaires plutôt, ou alors encore les mugs Walt Disney. C'est souvent ce qui est le plus souvent collectionné.
D'accord.
Ou encore, bah, tout simplement, on remplit nos placards parce qu'ils sont tous, les mugs sont tous très beaux ou insolites et on a toujours envie d'en avoir un nouveau chaque année.
Faire le ménage. Hein.
Oui, souvent. Le mug est un terme anglais qui signifie une grande tasse cylindrique qui peut contenir environ 350 ml de contenance, ce qui équivaut à 2 tasses de café. Les parois sont assez épaisses pour garder le liquide au chaud et il possède une anse pour ne pas se brûler. Le premier mug...
Dis donc, on est dans l'info ce soir. Hein.
Le premier mug était en bois. Des archéologues ont même trouvé des tasses en os sculptées de l'âge de pierre.
Oh putain, une tasse en os. Moins. Tu vois, là, moins. Hein,
ouais,
je sais pas,
moins,
tasse
moins,
en os.
Vraiment,
oh,
ouais, c'était,
ça avait un petit goût.
Oui, en même temps, il fallait.
Ouais, il fallait, ouais.
Ouais, un petit goût d'épices, là, sympa. Ouais.
Ensuite, il y a eu la. Parce que la porcelaine n'a pas été inventée tout de suite, évidemment. Donc, ensuite, il y a eu la poterie qui a permis la fabrication de mugs en terre cuite. Et l'âge d'or de la tasse et du mug, effectivement, apparaît avec l'invention de la porcelaine en Chine, vers moins 600 avant Jésus-Christ.
On parlait déjà, donc.
On parlait mug.
On discutait autour d'un thé.
Ouais, mais ça s'appelait pas un mug à l'époque.
Ça s'appelait pas un mug à l'époque. C'est-à-dire, en Chine, en fait, c'était... oui, voilà, les Chinois avaient besoin de récipients, en fait, pour boire le thé, parce que le thé vient plutôt de là-bas, de l'Asie, en tout cas. Et ils ont inventé des petits bols, en fait, sans anse, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. On en retrouve à Nature
et Découverte.
Vous
les petites soupes, les petites soupes qu'on a en entrée de...
Oui, voilà, mais même des bols un peu cylindriques comme ça.
Ah oui, d'accord. Oui. Et sans anse.
Sans anse.
À Nature et Découverte, en général, on en trouve.
Mm-hmm. Ailleurs aussi. Hein.
Ailleurs aussi, mais bon.
Elle voulait le placer, elle a des actions là-bas.
Et donc, en fait, il faut préciser que le thé se boit tiède, en fait, là-bas. Donc, c'est pour ça ils peuvent tenir, en fait, le petit bol, en fait, sans anse.
Pas besoin d'anse.
Tandis qu'en Europe, en fait, on voulait boire très, très chaud, en fait, le liquide. Et finalement, donc, il a fallu inventer l'anse. Okay. Donc, l'anse a été inventée par un Allemand qui s'appelle...
Armstrong.
Voilà, Johann Friedrich Botter, en 1707.
D'accord.
Donc le mug, comme je disais, était souvent en porcelaine, donc vous savez comment on reconnaît, et céramique, évidemment, la plupart sont en céramique, mais la porcelaine, vous la reconnaissez comment ?
Quand on la fait tomber, ça se casse plus facilement.
Non, c'est pas ça.
Test destructif. Non.
Ça brille.
Qu'est-ce que...
Ouais, ça brille.
Quand on tape, ça résonne plus.
Oui, c'est vrai, ça résonne plus, mais en général, c'est plutôt vous mettez la tasse ou le mug dans... devant une source de lumière, et si c'est translucide, c'est de la porcelaine.
Ah, porcelaine est translucide,
oh,
d'accord.
Voilà. Oui. D'accord.
Donc évidemment, il y a la porcelaine de Limoges qui est assez connue, la porcelaine de Sèvres, et alors la porcelaine de Bernardo, vous allez sur leur site, 400 euros la tasse.
Ah oui.
C'est pour ça que je ne connais pas, en fait,
oui, la moins,
Bernardo.
Déjà.
Sachant que effectivement, alors c'était souvent, il y avait, à l'époque, les verres transparents n'existaient pas, c'est-à-dire, et l'électricité non plus, d'ailleurs, et donc on était éclairé à la bougie. Donc, en fait, on mettait beaucoup de feuilles d'or, en fait, sur les tasses, à l'époque, pour que ça brille, en fait, à la lueur de la bougie.
D'accord.
Ouais. Ok. Oh, c'est magique, un peu.
Mais c'est cher.
Mmh. Mais c'est magique.
Une
mais
autre forme de mug bien connue de nos grands-parents existe, c'est le mazagran. Une tasse en porcelaine assez haut.
Oui, c'est vrai. Avec évasé un peu.
Pied, voilà.
Oui.
Et assez moche.
Et il n'y a pas de hanse. Et assez ringarde, effectivement, pour certains.
Oui, quand même.
Non, mais attends, on en a, nous. Oh.
C'est plus dans le contexte, c'est tout. C'est
c'est des contextes.
Ringarde ou vintage, attention, ou vintage.
Bien
c'est
sûr.
Et du coup, d'où ça vient? Parce qu'effectivement, il y a débat là-dessus.
Alors, son nom, en fait, vient d'une victoire historique. La bataille de Mazagran, à l'est d'Oran, en 1840. Alors, les militaires français étaient au nombre de 123, et ils gagnent la bataille contre 12 000 combattants algériens.
Dingue.
On dira que le courage et la force de ces militaires, en fait, venaient d'un breuvage, le café noir allongé d'eau un peu sucrée, à laquelle on rajoute un peu d'eau de vie, qui était servi dans des grands verres.
C'est vrai qu'ils étaient pochetronnés.
Ensuite, quand ils reviennent sur Paris, les cafés parisiens, en fait, se servent, enfin, reprennent, en fait, cette potion, on va dire, voilà.
Ouais.
Et du coup, ils la servent effectivement dans des verres pour y pouvoir y ajouter de l'eau, parce que les petites tasses, en fait, elles sont trop petites pour rajouter la petite eau de vie là.
D'accord, oui.
Et c'est à ce moment-là qu'une manufacture de porcelaine a eu l'idée de fabriquer le mazagran.
D'accord.
Et voilà, le mystère est résolu.
C'est dingue. Mais c'est toujours aussi moche.
Alors attendez, parce que j'ai encore mieux quand même. L'ancêtre du mug, c'est bien sûr la tasse.
Ouais.
La tasse la plus célèbre, c'est la tasse Litron, ça s'appelle.
Il y en a une qui connaît bien à côté, elle dit la pétasse, qui est très célèbre.
La tasse Litron à base carrée, c'est l'ancêtre de notre tasse à café actuelle. Elle a été inventée par un orfèvre qui s'appelle Jean-Charles Duplessis.
Enchanté.
Cette tasse possède une coupelle à fond plat qui permet une stabilité de la tasse, mais bon là, si on voit pas l'image, évidemment, c'est compliqué. Alors, savez-vous que la coutume, en fait, vous savez, la tasse, il y a toujours une soucoupe, et la coutume était de verser un peu de café dans sa soucoupe, en fait, pour refroidir le café le plus vite. Et effectivement, je me souviens d'avoir, peut-être, je ne sais plus où, peut-être dans un musée ou je ne sais quoi, je me souviens qu'en fait, la soucoupe servait à boire le café et non pas la tasse.
Ah bon ?
Et oui,
ça
à l'époque.
Ça ne pas être très pratique.
Mais la tasse, c'était le récipient, si vous préférez, mais ouais. En fait,
on pour met la un peu boire, dans la soucoupe, ouais, et après on boit l'assiette, quoi.
Oui, et il y a sûrement, il y a des tableaux ou des peintures où on voit effectivement.
D'accord.
Boire à la soucoupe.
Bah écoute.
Ah bah alors là, j'aurais ouais. appris un truc.
C'est clair.
Alors attends, donc le matin, en général, c'est plateau petit déjeuner, et mug et mousseli. Donc, ouais. Alors si je vous dis cette phrase, et si je vous dis une autre phrase, si je vous disais. Venez vous servir au cabaret, boire des boissons exotiques. Laquelle vous préférez?
Je sais pas.
Pourquoi. Je sais pas, ça dépend pourquoi faire en fait.
Oui. Ouais, les deux sont pas mal. Hein. Ouais.
Est-ce que c'était des pubs, c'était quoi ces expressions?
Non, du tout. Ça veut dire que en fait, de maintenant, le côté moderne, c'est plutôt plateau petit déjeuner, mug voilà. et céréales.
Ouais, c'est ça. Ah, et l'ancien temps, c'était ça.
Le cabaret, en fait, c'était, ça représentait l'ensemble de tasses et de soucoupes servies okay. sur un plateau et ça s'appelait un cabaret. Et d'accord. on disait, je veux servir une boisson exotique, café, thé ou chocolat qui vient de loin.
Très
évidemment.
Bien.
Oh, la vache.
Nickel. Rapidement.
Rapidement, alors je me dépêche. Oui. La tasse passe par toutes les formes. Il y a la tasse trembleuse, la tasse à la reine pour garder le lait chaud, la tasse à canard pour tremper un sucre dans 3 gouttes de café, la mignonnette, la petite tasse, 6 cm de hauteur au XVIIIe siècle, la tasse jasmin pour le chocolat ornée de griffes d'animaux avec une anse en forme de spirale. Et la plus insolite, la tasse à moustache au 19e siècle, avec un rebord à l'intérieur qui empêche le liquide d'atteindre la moustache.
Oh, c'est pratique.
Alors évidemment, bon, il y avait plein de motifs, mais je ne me suis pas attardée sur les motifs, motifs orientaux, bah oui, etc. Sur ces considérations, il faut que je m'arrête un instant. J'ai besoin de boire un peu de café dans le mug isotherme. Oui, je suis une nomade, moi.
Ah oui, effectivement, maintenant, il y en a des isothermes. Oui. Très bien, merci. Allez, dans un instant, merci Sandra. Dans un instant, on va découvrir la deuxième partie de CMA sur Radio G en Maine-et-Loire, Fréquence Zik et Spotify partout dans le monde. En attendant, c'est la reprise de la semaine. Alors, pas sûr que c'était mieux après. Hein. Voici la reprise de cette année-là. Alors, c'est qui ça? Voilà, M. Pokora, évidemment. Donc, ça date de 2016 et il reprenait la chanson de
Claude François.
Claude François.
Cette année-là, je chantais pour la première.
Alors, est-ce que c'était l'original d'après vous?
Non.
Non, c'était une chanson anglaise.
C'est ça, c'était au départ un tube de 1963, December, du groupe Four Seasons. Alors du coup, est-ce que c'était mieux avant ou après pour la pause musicale? Qu'est-ce que vous voulez, cette année-là de Pokora, cette année-là de Claude François ou Four Seasons? Four Seasons.
Non,
Four
Seasons.
Ah bah Four Seasons plutôt.
Moi je préfère celle de Yannick.
Oui aussi, c'est vrai, il y avait aussi, ça aussi.
Hein. Elle est pas mal celle-ci.
Alors voici la version anglaise et la version originale Four Seasons. C'était le choix des animateurs pour cette fois-ci. Donc, c'est la version originale de cette année-là, donc December par Four Seasons. Allez, c'est parti maintenant. Voici le sommaire de la deuxième partie de l'émission. On peut s'habiller sans chemise, mais sans pantalon, ça fait désordre, effectivement. Elle sort son revolver de sa poche pour flinguer la mode et les préjugés. Bonsoir Caro, quel est ton sujet ?
Bonsoir. Et oui, avec les températures actuelles, je ne recommande pas de rester sans chemise, sans pantalon.
On n'est pas loin d'avoir ce jingle.
Rika, si tu nous écoutes.
Ouais. Avant Julien Doré, beaucoup n'avaient jamais entendu parler de cet instrument. Pourtant, il rapporte 120 points sur une case contre triple au Scrabble. Bonsoir Robin, c'est quoi ton instrument ?
Bonsoir, moi je vous parlerai d'une puce sauteuse que tout le monde connaît, plus connue par son nom hawaïen, c'est le ukulélé. À tout à l'heure.
Ukulélé. Et tout ce qui nous entoure, et si tout ce que nous entoure était une illusion, et que vous, auditeurs, soyez le seul être pensant de l'univers. Ah oui. Eh bien, on vous a pourtant prévenu avec beaucoup de films. Allez, on en rajoute une couche avec celui qui sort de sa caverne ce soir. Bonsoir Olivier. Dis-nous
bonsoir.
Tout.
Bonsoir. Je vais vous parler de Platon. Comment Platon a influencé beaucoup de films.
Du cinéma
français, par exemple.
Rubrique culturelle. Une demi-heure très chargée, donc. Voici la deuxième partie de CMA. Qui a eu l'idée de faire deux tubes de tissu à enfiler sur les jambes ? Qui a osé mettre cet objet de torture prêt à nous circoncire à chaque dézippage ? Slim ou fast ? Voici une chronique moulante par une chronique. Par une Caroline bien froquée.
Vous me permettrez en passant de vous présenter ma chanson sans chemise, sans pantalon.
Forcément, il fallait que tu l'aies quand même.
Ah bah oui, merci beaucoup. Et oui, qu'il soit de costume, cargo, chino, en jean, droit, skinny, large, le pantalon est partout. Et désolé Jérémy pour la planète, mais c'est 90 millions de jeans Levi's qui sont vendus chaque année. Je sais, t'as mal.
Ils sont vraiment pas très résistants.
Mais quelle est l'origine du pantalon ? Eh bien, c'est au néolithique, soit de 3200 ans avant Jésus-Christ.
Mais ils sont tous retenus. Alors on dit, allez, on va apprendre le nouveau langage, on va brancher dans des tasses, et puis hop, si on se fait un pantalon. Et il y avait un club à l'époque.
Ils sont très forts.
Ouais.
Et donc, les hommes portaient des sortes de jambières. Voilà, donc c'est les premiers pantalons avec une sorte d'entrejambe en plus. C'était bien pensé quand même.
Une jambière.
C'était intelligente.
Bah oui, c'est le principe du pantalon.
Mais voilà, ça là.
Sinon, c'est une jupe. Hein.
Alors non, parce que vraiment, là, il y avait une sorte de... Je sais
Parle
pas,
nous
vous
de
leur demanderez. Enfin,
parle-nous de leur entrejambe.
Oui, alors les premiers pantalons avec entrejambe proviennent en fait de l'antiquité chinoise. Là, on avait des choses un peu plus élaborées.
D'accord.
Conçues principalement pour monter à cheval. Et en fait, toutes les civilisations antiques adoptent le pantalon pour la pratique du cheval au final. Sauf les Romains, qui y voient un symbole barbare.
Mais ils avaient quoi avant pour monter à cheval ? Ils étaient en slip, ils étaient...
À poil ?
Non, c'était des sortes de jupes longues,
c'est
fait.
C'est ça, des pagnes ?
Oui, des pagnes,
d'accord.
Oui, selon les pays, ça s'appelle différemment. Mais c'était long. Et voilà, donc symbole barbare pour les Romains, qui eux restent en jupe. Donc au IIIe siècle, c'est l'armée qui l'adopte. Ce qui va faire un effet un petit peu boomerang. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle, au final, qu'il fait une réelle apparition en Europe. D'ailleurs, le thème pantalon vient d'où ? Eh bien, il vient de pantalone.
C'est italien. C'est
italien, c'est pas mal. Hein.
Ouais.
Commedia dell'arte, bien sûr, c'était un petit personnage qui avait une grande culotte bouffante.
Ah,
qui faisait le clown.
Okay.
Voilà. Donc, en fait, ensuite, au Moyen-Âge, on appelle ça les chausses. Donc, des sortes de jambières, on revient aux jambières, en fait. Mais améliorées, cette fois, un peu plus jointes dans le dos, en fait. Et ensuite, à la Révolution, évidemment, c'est un symbole politique. Tout le monde connaît les sans-culottes, par opposition à la noblesse.
Ah, d'accord, ok.
En 1830, enfin, en Angleterre, il est très rapidement le bas le plus porté par l'homme. Ensuite, on a rajouté une sorte de braguette.
Ouais.
Car tout cela reste encore une histoire d'homme, bien sûr.
Bah oui.
Évidemment, pour les femmes, c'est plus compliqué. Les femmes persanes portaient ce vêtement depuis déjà plusieurs années. Mais en France, ce n'est que pendant la Révolution qu'une femme qui voulait porter le pantalon avait une petite autorisation, mais elle devait se déclarer à la police avant, puisqu'il y avait une loi anti-pantalon pour les femmes.
Ah bon, il faut avoir son petit papier.
Exactement, il faut aller se déclarer avec son pantalon. Donc, il est toléré par les femmes aussi, exerçant un métier d'homme, bien sûr, les aviatrices, les cyclistes, et c'est d'ailleurs par le sport et surtout le cheval que les femmes vont avoir un petit peu ce droit de porter des pantalons.
Mais du coup, c'est une bonne idée, parce que ceux qui s'habillent mal, ce serait bien de passer une loi comme ça, où il faut demander la permission.
Il faudrait tellement de lois.
Ouais, ok.
Et ce serait sans fin.
Mm-hmm.
Donc, aussi,
tu serais tout le temps au poste, toi.
Oui. Ah bah, je mettrais des amendes, mais à tire-larigot, moi.
Ah, dans ce sens-là, d'accord.
Non,
je pensais pas dans ce sens-là. Moi.
Je sais,
par contre,
mais
tu
non.
En taule, Bruno.
C'est ça.
J'attendais
le
revers.
Perfaite pour toi. Et donc, comme Coco Chanel, et bien qu'il faisait du cheval, elle a créé sa collection spécifique pour émanciper un peu les femmes. Tout ça va permettre aux femmes une grosse émancipation et une petite libération aussi, puisqu'elles portaient des tenues qui étaient quand même très très encombrantes avant. Enfin, en 1930, les actrices hollywoodiennes comme Marlene Dietrich choquent Hollywood, mais démocratisent en portant même des smokings. Alors là, on est au level au-dessus, c'est vraiment hyper choquant. Ensuite, c'est enfin à l'après-guerre qu'il devient socialement accepté. Donc c'est encore un petit peu limite pour les femmes, mais ça passe. Et enfin, en 1960, c'est Yves Saint Laurent qui crée le premier vrai pantalon pour femmes et qui entérine une bonne fois pour toutes la dictature.
C'est super récent quand même.
C'est très récent au final. Pour les femmes, c'est vraiment un bouleversement, puisqu'avant, on était quand même très embêtés. Et maintenant, une personne a en moyenne 6 à 10 pantalons dans son dressing. Est-ce que c'est votre cas?
Ah non.
Oui. Moins Bruno?
Non, non. Ah non, moins, beaucoup moins.
C'est vrai?
Ah oui, oui.
6 ouais, à 10, c'est 6, pas
ouais.
Tant que ça.
Ah oui. Non, moins, c'est vrai moins, ouais, ouais. Oui, surtout quand c'est un jean. Enfin, un jean ressemble à un jean.
Non, c'est la génération d'après, c'est pour ça, moi j'en ai au moins 12. Hein.
Ah oui, quand même.
T'en as plus de 10, d'accord.
Ok, bon, bah écoute. Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà.
Ou qu'on préserve la planète.
C'est ça.
Ouais, surtout ça.
C'est tout.
Ok, très bien. Merci, Caro. Dans un instant, on parlera musique, mais aussi cinéma. Avant, c'est l'heure est Graal. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le nombre de tours du château d'Angers.
Oui.
Ah, tu connais? Ben, on va voir. En tout cas, le Graal, lui, le sait.
Question d'Eddie de Nantes. Combien le château d'Angers a-t-il de tours?
C'est pour me défier ou bien ton Wikipédia est en panne? Ok, on va faire un tour. Bon, le château n'est pas tout neuf. Hein. Le premier petit fort date du 9e siècle, c'est peu dire. Quelques temps plus tard, après moult guerres et changements de proprio, c'est Blanche de Castille et son marmot Saint-Louis qui prend une carte de fidélité Castorama pour relooker la chose et en faire une véritable forteresse. Pour répondre à ta question, Eddie, il y a 17 tours de 12 mètres de large et espacés de 20 mètres. Le chemin qui les relie fait plus d'un kilomètre. Ça va continuer à se friter et on va faire des tours des terrasses pour l'artillerie. Le château est alors devenu une prison, puis un dépôt d'armes. Il est plus pacifique aujourd'hui en abritant une tapisserie du Moyen-Âge. C'est bon? On a fait le tour? C'était le Graal, vous pouvez nous poser vos questions sur la page contact du site radio-g.fr. On savait que Robin tirait à l'arc, mais pas qu'il s'adonnait au ukulélé. En voici les origines avec ben, Robin, justement. Entièrement bruté à la bouche.
Oh là là, c'est bien fait. Et bien donc
oui non mais c'est la bouche que... d'accord ok non
je sens bon le sable chaud voilà. Les palmiers et la oula, mon nom veut dire puce sauteuse en hawaïen, je suis le ukulélé. Donc il a été inventé au 19e siècle à Hawaï suite à l'importation du cavaquinho par les Portugais, un instrument fort semblable mais portugais. J'aimerais vous dire que les colons arrivés à Hawaï ont fait des barbecues sur la plage en jouant de la musique avec les autochtones et en dansant,
j'en
etc.
Doute. Non, j'en doute.
Et oui. Bon, en réalité, les colons viennent surtout réduire l'esclavage, piller les richesses et violer les femmes. C'est beau l'histoire. Hein. Mais enfin, naît alors de tout cela le cavaquinho, le ukulélé. Il se diffuse dans les années 1920 aux États-Unis et devient de plus en plus populaire. Jusqu'à ce que les grands noms de la musique l'adoptent. Par exemple, le merveilleux Elvis Presley, il aime Hawaï, il aime sa culture. Il y fait même un film en 1961, Blue Hawaii, avec un album du même nom qui cartonne. Et on y voit notamment notre très beau Elvis avec un ukulélé dans les mains. Ça fait exploser le ukulélé qui se diffuse encore plus. Elvis, Sol Hoopy et Iz, pour ne citer que ces grands noms, diffusent ce beau son du ukulélé. En 1993, Iz, de son nom complet Israel Kamakawiwo, sort le titre mondialement connu Somewhere Over the Rainbow, un mixte entre les paroles d'une chanson d'un film du Magicien d'Oz de 1930 et What a Wonderful World de Louis Armstrong avec une belle accent.
Ça ressemble à quoi un ukulélé ?
Ah, c'est une guitare qui est trois fois plus petite, en fait, avec quatre cordes.
Ah,
qui est, oui, c'est
une guitare pour enfants.
C'est ça, c'est la même forme qu'une guitare, mais c'est trois fois plus petite.
D'accord, d'où le son un peu plus aigu que les guitares classiques.
En France, on a aussi une égérie du ukulélé qui a popularisé son utilisation. Malheureusement, c'était dans La Nouvelle Star et c'était Julien Doré qui tunait le pauvre.
Bah, pas malheureusement, c'était bien.
En 2007.
Bah, c'était très bien, moi j'aime bien Julien Doré. Il a dynamité un peu le programme, d'ailleurs. Il était un petit peu fou à l'époque, et il est toujours. Mais c'était pas mal, hein. Non, voilà. Si, c'était bien.
Non, la différence de génération doit se sentir ici.
Non, c'est que tu l'as pas regardé, en fait. C'est ça, sans doute.
Et aujourd'hui, vous pouvez acheter un ukulélé pour moins de 50 euros, apprendre à jouer gratuitement sur YouTube et élargir votre panel musical grâce à de très nombreuses partitions en ligne. Bref, le ukulélé, il n'y a rien de mieux pour égayer quelques soirées ou déclarer à votre flamme à l'être aimé.
Ah, ah c'est ça. Une bonne idée, ça, dites donc. Merci, Robin. Alors, qui ne s'est pas demandé, au moins une fois dans sa vie, si ce qu'on vivait était la réalité ? Le cinéma n'arrête pas de se poser la question, et justement, c'est ce qu'on va voir avec Olivier. C'est la musique de Matrix, hein, c'est juste Astérix.
Ah, oui.
Eh ben oui, forcément.
La génération encore.
Voilà. Alors on a Manu qui travaille un petit peu avec des gens qui se posent justement tout le temps ce genre de questions. Donc ça va, on n'est pas seul à se poser ce genre de questions.
On a des solutions pour toi, Olivier.
Oui. Alors on va remonter le temps et on va aller au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Ah, c'est là qu'ils ont inventé les blagues, le machin, le machin. Bah, c'est thématique ce soir. Hein.
Et je vais quand même vous parler du philosophe grec Platon, donc, qui a fait le texte le plus célèbre de la philosophie, donc l'allégorie de la caverne dans le recueil La République.
Platon, c'est celui qui n'a jamais réussi à conclure, c'est ça?
Ah bon?
Bah si, amour platonique, tout ça, oui, bah oui, il a, c'est le pauvre. Alors, c'est le Jean-Claude Duss de grec.
Donc en gros, l'histoire, on est dans... Oui, bref.
Non mais relève pas.
Donc alors, c'est une allégorie, donc c'est une image pour faire comprendre un concept à nous. Donc on est dans une caverne, des hommes sont enchaînés dans une caverne, donc ils tournent le dos à la lumière du jour, donc à la lumière de l'entrée. Derrière, donc il y a des marionnettistes qui utilisent différents stratagèmes, qui bougent, je sais pas, des feuilles, des choses comme ça, qui font des figures. Donc les prisonniers regardent sur le mur donc des ombres d'objets placés entre le soleil et le mur, et en fait ils prennent les figures pour des personnages vivants ou pour des choses acquises. Donc cette allégorie, en fait, elle montre la difficulté pour l'homme d'atteindre la vraie connaissance et de la partager. La caverne représente l'ignorance de l'homme, celui qui ne sait pas est enfermé, donc privé de liberté, et il n'a pas accès à la connaissance réelle qui serait la lumière du jour. Alors, on peut y voir aussi, à l'heure actuelle, plusieurs dérivés. Par exemple, on peut penser que les chaînes, le fait d'être prisonnier, les chaînes, ça représente un peu nos opinions, nos valeurs qui ont été transmises par l'éducation. Et puis ces marionnettistes qui sont en retrait, c'est peut-être les hommes politiques, les influenceurs, voilà, des gens qui nous influencent, qui influencent nos idées.
C'est un peu conspirationniste quand même comme idée.
Non,
aussi.
Mais bah justement, on peut en parler. Ouais. À l'heure du confinement, il y a eu beaucoup de choses qui... Voilà, il y a eu un rapprochement avec les mythes de la caverne. Enfermé entre quatre murs, est-ce qu'on n'est pas non plus...
Ce qu'on regardait à la télé, c'était pas la réalité, c'est ça peut-être.
Il y a aussi un rapport avec les fake news et tout. On peut être influencé par des fake news et tout. Mmh. Tout ça, c'est un peu... Voilà, c'est pas la vraie connaissance, c'est peut-être pas la vraie réalité. Il faut savoir que dans l'allégorie de la caverne, il y a quand même un individu, donc un prisonnier qui réussit à s'échapper. Et qui retourne dans la caverne et qui découvre le soleil, et donc il retourne après dans la caverne pour dire à ses disciples, voilà, à ses copains, que en fait ce qu'il voit, c'est pas la réalité. Et en fait, ça va mal se passer parce que, faute de preuves, aucune personne ne le croit. C'est quand même dingue, ça. Alors, de nombreux films existent, voilà, on reprit ce thème, on a beaucoup de films où un personnage croit à une réalité et il est ensuite exposé à une autre, un peu plus grande. Alors, est-ce qu'il y a des films comme ça qui vous viennent
Bah moi, tout de suite, il y a Truman Show.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais, ouais, forcément.
Alors, je vous ai sélectionné à peu près 5 films. Il y a The Island, un film avec Michael Bay, avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Là, en fait, c'était une micro-société. En fait, c'est des. On fait croire à des gens qu'il y a eu un cataclysme nucléaire, donc ils vivent entre eux. Et en fait, ces personnes, ce sont des clones de personnes riches, vivantes. Et en fait, ils servent juste de dons d'organes.
Ah, ils sont cultivés pour.
Ils sont cultivés pour ça. Et donc, petit à petit, ils vont découvrir la réalité. Il y a aussi le film Dark City. Alors, Dark City, là, c'est pareil. C'est des extraterrestres qui font croire à des hommes sur un vaisseau spatial. Voilà, qui tous les jours, ils leur font croire qu'ils vivent dans une ville. Et tous les soirs, ils les endorment. Et après, ils recréent une autre ville. C'est assez bluffant comme société.
Mais ils essayent de voir l'âme humaine, oui. C'est de la comprendre, en fait.
Mais là, c'est pareil. Petit à petit, il y a toujours un individu qui va découvrir la réalité. Il y a un des films préférés de Bruno, c'est aussi Passé virtuel.
Mmh, excellent.
Et puis, il y a surtout aussi le Truman Show.
On n'a pas l'histoire, hein, pour Passé virtuel.
Hein, trop compliqué, il faut le voir.
Passé virtuel, c'est encore plus compliqué. C'est 5, 6...
Non, mais si, c'est un jeu, c'est comme un jeu électronique, et le personnage à l'intérieur, c'est tellement bien fait qu'il a l'impression d'être vraiment vivant. Et voilà, donc il va s'apercevoir qu'en fait, il n'est que électronique, mais il va réussir à monter au niveau supérieur, mais qui est également électronique, et ainsi de suite.
Un film que j'affectionne beaucoup, c'est The Truman Show. Alors là, c'est peut-être... moi, je pense qu'on est... Alors là, on passe peut-être à un stade de... Alors, Truman Show, c'est en fait, c'est une télé-réalité.
Ce qui est bien, c'est qu'il est très réaliste. Ouais, ça pourrait être vrai, plus que les autres. Ouais.
On a enfermé un individu depuis sa naissance, donc Jim Carrey, dans un énorme complexe. En fait, il a reconstitué une île. Et en fait, il est filmé 24 heures sur 24 avec avec sa mère, avec ses enfants, mais qui en fait sont, enfin non, sa mère et sa compagne, mais qui sont en fait des acteurs. Mm-hmm. Voilà. Et tout ça, voilà. Et petit à petit, donc, il va découvrir juste par le fait qu'il y a un projecteur qui tombe du haut de la plateforme, il va penser qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Là, ça va plus loin parce que Truman Show, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est de la paranoïa ou pas, mais est-ce qu'en psychiatrie, il y a quelque chose, quand même, un terme quelqu'un qui pense qu'on est, que tout ce qu'il y a autour, c'est irréel. Est-ce que ça arrive, ça ?
Ah, des éléments délirants, ouais.
C'est du délire.
Il y a l'idée que le monde dans lequel on vit n'est pas celui dans lequel je vis, moi, en fait. Mmh. Mais ça peut être des éléments délirants, c'est-à-dire une réalité complètement transformée. Oui.
Mais ça vous a jamais arrivé en disant, tiens, j'ai fait un truc pas habituel, là je retourne chez moi, puis ça se trouve, il y a un truc, parce que chez moi...
Non, il n'y a que toi, Bruno.
Il n'y a que moi. D'accord. Des fois, quand on change son habitude, on se dit, on va...
Est-ce que tu te sens angoissé, Bruno? Tu veux qu'on parle éventuellement?
Bon, faut que j'aille voir mon psy, ok.
Il y en a peut-être beaucoup aussi qui peuvent penser que ce soit un rêve.
Oui.
Un peu comme dans Matrix. Alors, la Matrix, c'est typiquement l'allégorie de la caverne. Hein. Matrix, alors, la caverne, en fait, c'est la matrice. Donc le monde virtuel. Tout le monde connaît Matrix à peu près, ça va ?
Ça va. Ne regarde pas le plus jeune, t'inquiète pas. J'ai pas
donc la matrice, c'est le monde virtuel qui a été inventé par les robots. Voilà, donc les humains ont l'impression de vivre dans un monde virtuel sans savoir ce qu'il y a une réalité ailleurs. Donc Neo, bah, là aussi, il découvre le monde et il a du mal à croire Morpheus quand il lui dit qu'il n'est pas dans le monde réel. Il y a un nouveau monde, c'est quand même compliqué pour lui. D'acquérir cette nouvelle donne, quoi. C'est quand même compliqué.
Inception aussi, un petit peu. Il y avait aussi, dans le rêve, c'est tellement réel qu'on se demande. Oui.
Et le fait, dans la caverne de sortir et de voir le soleil en face, bah justement, Matrix fait directement référence à ça. Si vous voyez bien, à la fin du premier Matrix, il y a Keanu Reeves, donc, qui joue Neo, qui met ses lunettes de soleil et qui regarde en haut le soleil. Voilà, et en fait, il découvre enfin la connaissance du réel. Donc, c'est directement une référence à cette allégorie de la caverne. Voilà, okay. Donc, il y a plein de films comme ça. Hein, c'est, voilà. En fait, c'est vieux comme mes robes. Quoi, en fait.
Shutter Island un peu aussi. Et dans sa
réalité, oui. Et là, Shutter Island, ça parle vraiment du problème psychiatrique.
Psychiatrique, ouais, plus, du coup.
Il y a aussi, on peut aussi citer Fight Club, il y a aussi Mr. Robot. Où là, c'est carrément un monde qui sont créés eux-mêmes. Quoi. Mais là, c'est vraiment de la psychiatrie, quoi. C'est clair.
Eh ben, pas mal de films à voir si vous aimez bien ce sujet. Allez, c'est la fin de l'émission, mais avant de nous quitter, voyons le gagnant de la dernière émission.
Oh,
en effet, si vous nous suivez depuis septembre, vous savez qu'un panel d'auditeurs vote pour leur chronique préférée. Le gagnant voit alors son sujet à l'honneur dans les podcasts du site Radio G. Alors attention, voici le résultat. Le chroniqueur qui remporte le CMA+ est Florian, qui apparemment a passionné les auditeurs avec ses emballages alimentaires. C'est de pire en pire.
Bravo.
Voilà, on a parlé de papier alu pendant 10 minutes.
Un discours.
Florian, un petit mot, tu as gagné.
Ah bah merci à tout le monde. Hein.
Voilà, faut écouter sa chronique pour y croire. Hein.
Mais parce que c'est des objets du quotidien.
Bah c'est peut-être ça en fait.
C'est toujours pas qui vote.
Les gens, bah non, heureusement, parce que sinon vous allez les soudoyer.
Ma mère en fait.
Ça doit être ça. Bon, en tout cas, bravo, hein, tu vas être dans la rubrique CMA+, des podcasts plus de Radio G. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci Manu, merci Jérémy, merci Florian, merci Sandra, merci Caroline, Robin, et merci Olivier. On embrasse aussi nos autres chroniqueurs qui reviendront à la prochaine émission, Pauline, Cisco, Sonia et Mathias. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Et d'ici là, n'oubliez pas, on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA. You're late, you're late.